Je me suis permis de prendre un verre d'eau, hein, parce que j'ai une toux irritante. Quelqu'un a compris l'autre jour que j'ai dit que j'avais une femme irritante. Mais j'ai rassuré que c'est plutôt moi qui irrite Brigitte que le contraire. N'est-ce pas, Brigitte? Je tousse uniquement quand je parle et quand je chante. Donc, à la maison, je ne parle pas. Et heureusement pour Brigitte, je ne chante pas. Nous poursuivons nos prédications dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et ce matin, nous allons lire une partie de 2 Corinthiens 8 et une partie de 2 Corinthiens 9. Donc je vous invite à trouver 2 Corinthiens 8 et on va lire les 6 premiers versets. Et puis, on va enchaîner avec 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9, et puis le tout dernier verset de 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 8, verset 1. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante, et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il avait d'ailleurs commencé. Chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Et le dernier verset de 2 Corinthiens 9, le verset 15, « Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. » Ce matin, on va parler d'argent. Est-ce qu'il s'agit d'un sujet tabou? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. L'argent est à la fois un sujet tabou, mais aussi un sujet dont on parle tous les jours. La langue de Molière est riche en dictons et proverbes au sujet de l'argent. Je vais tester vos connaissances ou votre intelligence. À vous de décider. L'argent ne fait pas. Bon, pas mal. L'argent est un bon serviteur, mais l'argent ne pousse pas. Oh là là, vous êtes moitié sur les arbres, exactement. Les biens mal acquis, voilà. Tout ce qui brille, jeter de l'argent. Dieu est maître du ciel et l'argent est maître de la terre. Le temps, c'est l'argent ressemble à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on en veut. Oh, plus on a soif. L'eau de mer, oui, si on boit, on a toujours soif. Bon, j'expliquerai ça tout à l'heure. Vouloir le beurre, L'argent n'a pas. Voilà, déjà 11 dictons que tout le monde cite tous les jours et vous les connaissiez. Je me demande que si j'avais fait le même exercice au sujet des versets bibliques dans le livre d'Ézéchiel, si j'ai donné la première phrase, est-ce que vous pourriez compléter? Bon, je ne vais embarrasser personne. La Bible parle de l'argent. Dans l'Ancien Testament, il y a un bon nombre de versets qui parlent de ce sujet-là. Dans le Nouveau Testament, il y a une quantité de versets qui parlent d'argent. Rien que dans la vie et dans le ministère de Jésus, il y a de nombreux épisodes, de nombreuses paraboles qui parlent de ce sujet-là. Je ne vais pas vous demander de citer, mais je vais vous donner des exemples. Jésus qui chasse les marchands du temple, les voleurs du temple. Jésus qui dit qu'il faut payer les impôts. C'est dommage qu'il a dit ça d'ailleurs, peut-être. Hein? En tout cas, il faut rendre à César ce qui est de César. Il est le miracle de la pièce d'argent dans la bouche d'un poisson. Il est des principes de générosité dans la conversion de Zachée. Je vais donner 4 fois ce que j'ai volé à chaque personne. Il est la parabole du riche et de Lazare. La générosité du bon samaritain qui est donné de l'argent pour plusieurs nuits, plusieurs jours, pension complète à l'hôtel pour les juifs qui s'étaient fait tabasser. Il y a les dessous de la veuve dans le collecte. Il y a la mise en garde que l'argent ne devienne pas un dieu, une idole. Il y a aussi la parabole du jeune homme riche, la parabole du fils prodigue, la parabole de la pièce perdue, tout ça qui parle d'argent. Donc, l'argent ne devrait pas être un sujet tabou. Dans le texte que nous venons de lire, Paul parle d'une collecte en faveur des saints, c'est-à-dire en faveur des chrétiens qui étaient ailleurs, en l'occurrence à Jérusalem. Paul fait allusion aux chrétiens de la Macédoine. Vous savez, le pays de la Grèce était divisé en 2 parties. Il y avait le sud qui s'appelait l'Achaïe, avec la ville de Corinthe, et le nord, la Macédoine, avec des villes principales étant la Thessalonique et la ville de Philippe, avec un S. Paul nous informe dans ce texte que les chrétiens nordistes, bien qu'ils traversent des épreuves, bien qu'ils subissent la persécution, bien qu'ils vivent dans la pauvreté, ils ont fait preuve d'une grande générosité en envoyant de l'argent à Tite pour qu'il les envoie, pour qu'il l'amène en Israël pour donner aux chrétiens de la ville de Jérusalem. Malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les afflictions, malgré la pauvreté, les nordistes ont donné de l'argent pour les chrétiens en Israël. On pourrait faire une petite équation mathématique. Épreuve plus souffrance plus affliction plus pauvreté égale grande générosité. Ce n'est pas moi qui le dis. On vient de le lire dans le texte. Ils ont participé à cette collecte et Paul dit qu'ils ont donné volontairement. Selon leurs moyens, il dit même au-delà de leurs moyens. Il voulait soutenir les chrétiens qui aussi étaient persécutés en Israël. Il s'agit d'une attitude exemplaire et il s'agit d'une attitude solide. De Macédoine, leur raisonnement était on ne peut plus simple. Qu'on soit d'origine juive, grecque ou autre, si on est chrétien, on fait partie de la même famille. On a le même Seigneur, on a le même Sauveur. Ils savaient que certains chrétiens en Israël avaient perdu leur emploi, étaient traités comme des moins que rien, étaient prêts à être arrêtés, condamnés et donnés à manger aux lions pour leur foi. C'est pourquoi les nordistes voulaient encourager et soutenir les chrétiens en Israël. Solidarnos, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas Lech Walesa qui a inventé ce principe. On le voit dans la Bible. Solidarité, entraide entre chrétiens. La solidarité a toujours existé entre les chrétiens. Comme je disais tout à l'heure, les chrétiens du Nord ont fait preuve d'une grande générosité. Ils ont donné spontanément, sans être contraints, sans être forcés, sans être obligés. Et il semble qu'ils ont même insisté auprès de Paul, on veut donner quelque chose pour les chrétiens qui souffrent. Par conséquent, Paul fit appel aux sudistes, aux Corinthiens, de faire de même. Puisque les nordistes ont donné, les sudistes, vous pouvez donner. Mais volontairement et selon vos moyens. Il dit même que si vous donnez, le fait de donner quelque chose pour les chrétiens ailleurs, ça équivaut à une semence. On sème dans le vie d'un autre si on donne. C'est un homme de confiance, un certain Tite, qui est chargé de collecter ces fonds et de les apporter en Israël. Si vous, le nom Tite vous dit quelque chose, bien sûr, le Nouveau Testament parle de cet homme à plusieurs reprises. Il est question de lui dans le livre des Actes, dans l'épître aux Galates, dans 1 et 2 Timothée. Et aussi, bien sûr, il y a une lettre qui lui est adressée par Paul, la lettre de Paul à Tite. Les Macédoniens, donc, les nordistes, se sont d'abord donnés à Dieu avant de donner leurs biens. Un principe important. C'est facile dans le sens de donner. Mais Paul dit, eux, ils se sont d'abord donnés à Dieu avant de donner leurs biens. On pourrait dire que ces chrétiens ordinaires ont été exemplaires en faisant un geste solidaire. Ordinaire, exemplaire, solidaire. Il s'agit d'une pratique qui se fait dans nos églises en 2022. Ces dernières années, nous, notre église et les églises évangéliques en France ont été sollicitées pour soutenir des chrétiens ailleurs. Je pense aux ouragans à Madagascar qui ont démoli des salles évangéliques. J'étais là-bas il y a quelques années et les salles n'étaient pas reconstruites parce qu'ils ont dit, mais l'année prochaine, ça va retomber. Donc on met juste des toits de tente et ça va suffire comme salle évangélique. Parfois, on a été sollicité pour subvenir aux besoins des chrétiens qui subissent la famine ou la guerre dans le nord du Tchad. Des réfugiés ukrainiens ont été accueillis par des églises en Pologne et ailleurs, avec des centres, des églises comme la nôtre qui ont été ouvertes pour héberger, pour nourrir des chrétiens qui ont fui la guerre ou qui ont fui la persécution. Plusieurs fois, nous avons pu aider en tant qu'église des chrétiens ailleurs qui ont subi des afflictions et des épreuves. Selon notre trésorière, de l'Église, elle m'a confié que, elle m'a partagé que à peu près 50% de nos collectes sont envoyées à des missionnaires, à des missions, à des bonnes œuvres de toutes sortes. La moitié. C'est vraiment un bon chiffre. Alors, certaines personnes ici savent que j'ai l'habitude de créer une devise pour chaque année. Et il y a une personne ici ce matin qui, en janvier chaque année, vient me voir pour dire, David, quelle est ta devise pour cette année? Alors, elle était très déçue en 2014, parce que quand j'ai fait une devise, c'est toujours avec un peu de rime. Et je n'ai pas trouvé un mot qui rime avec 14. Si quelqu'un trouve un mot qui rime avec 14, je suis prenant. Mais pour l'année dernière, c'était « Fais confiance à Dieu » en 2022. Cette année, « Vis pour ton roi » en 2023. Et quand je dis roi, je ne parle pas de Charles III. Loin de là, je parle de Jésus que nous avons chanté, Seigneur des Seigneurs et roi des rois. Mais si nous décidons de vivre pour notre roi en 2023, ça va toucher, normalement, notre portefeuille, notre compte en banque. Ça va avoir un impact sur notre emploi du temps. Alors, une question. Quelle est notre attitude par rapport à l'argent? Quelle est notre attitude par rapport à notre argent? D'ailleurs, avons-nous le droit de dire notre argent? Grande question. Ces chrétiens-là, comme je viens de dire, les nordistes et les sudistes, ils ont donné volontairement, généreusement, intelligemment, discrètement. Je me souviens d'une dame dans l'ouest de la France, quand on habitait dans l'ouest. Elle venait de se convertir. Elle était directrice d'école primaire. Et un jour, en discutant avec un chrétien de l'église, elle a dit, mais comment est-ce que ça se passe dans l'église par rapport aux finances? Alors, le chrétien était un peu gêné parce que pour lui, c'était un sujet tabou. On ne parle pas d'argent dans l'église. Mais cette chrétienne, nouvellement convertie, voulait savoir des choses. Mais comment est-ce qu'on paye la facture? Comment est-ce qu'on paye le loyer, etc., etc. Donc, le chrétien expliquait qu'il y avait une collecte tous les dimanches et puis que les chrétiens donnaient selon leurs possibilités. La semaine après, cette chrétienne a demandé le RIB de l'Église pour faire un virement mensuel de 10% de son salaire. Alors, je ne dis pas qu'on doit donner 10% de salaire, loin de là. Mais elle voulait partager, elle voulait donner parce qu'elle savait qu'elle avait reçue. Elle tenait à soutenir son Église. Soutenir son Église. Soutenir la mission. Soutenir de bonnes œuvres. Si vous êtes à court d'idées, je vous encourage d'aller voir la trésorière ou les anciens pour demander conseil. Mais comment faire? Que faire? À qui donner? Comment donner à l'Église? Et les anciens et la trésorière sont très, on va dire, sont remplis de sagesse et vont répondre à toutes vos questions sur le plan financier. En parlant de la générosité, je ne veux pas me limiter à l'argent. C'est sûr, nous avons, on va dire, nous avons de l'argent, nous avons des biens, mais nous avons d'autres choses qu'on peut donner, qu'on peut partager avec des gens. Et il s'agit de notre temps. D'ailleurs, quand on est malade, on se rend compte que le temps est plus précieux que l'argent, que nos biens. Donner du temps aux autres, se donner aux autres, c'est aussi un principe biblique. On peut se dire, mais en 2023, avec qui est-ce que je pourrais partager mes biens? Avec qui pourrais-je partager mon argent? Ou avec qui pourrais-je partager mon temps? À qui pourrais-je consacrer du temps? Du temps. Qui aurait besoin d'une petite visite, d'un appel, d'un petit email, une petite carte? Bien entendu, si nous donnons, si nous partageons, si nous nous donnons, eh bien, la Bible nous encourage à faire cela discrètement. Discrètement. Ce qui m'amène à dire, si vous voulez aider quelqu'un, si vous voulez donner du temps ou des biens à quelqu'un, il faut savoir certaines choses. Première chose, il ne faut pas s'attendre à être remercié. Deuxième chose, il ne faut pas s'attendre à être honoré. Troisième chose, il ne faut pas s'attendre à être admiré. Quatrième chose, il ne faut pas s'attendre à ce que la personne vous fasse du bien en retour. Cinquième chose, il ne faut pas s'attendre à ce que les anciens publient dans la newsletter hebdomadaire tout le bien que vous avez fait la semaine précédente. Discrètement. Vous savez, une chose que Jésus détestait chez les chefs religieux de son époque, était leur hypocrisie et leur orgueil. Vous savez, au temple, lorsqu'il y avait le moment de la collecte, les pharisiens arrivaient, jamais seuls, mais avec toute une cohorte de, je ne peux pas dire de leur fan club, mais de plusieurs personnes avec eux. Et il y avait une personne qu'on appelait le héros qui annonçait ce que le pharisien, donc le chef religieux, mettait dans le collecte. Discret ou indiscret? Donc le pharisien arrive, donc là on est une centaine, il arrive, il passe au milieu de l'allée, et puis son héros dit, voilà mon héros, avec un petit jeu de mots, bon, son héros dit, voilà mon ami, il met tant dans la collecte. Et il faut savoir que la collecte au temple n'était pas comme ici, une petite boîte à la sortie, ou à l'entrée si vous voulez. Il y avait 13 troncs devant le temple. Et ces troncs étaient comme des trompettes à l'envers, on les appelait les trompettes. Et le contenu de chaque trompette, de chaque tronc, était destiné à quelque chose de précis. Un tronc pour acheter de quoi donner à manger aux pauvres. Un tronc pour les habits sacerdotaux des prêtres. Un tronc pour payer les factures d'électricité. Non, il n'y avait pas d'électricité. Bon, vous avez compris. 13 troncs pour 13 raisons différentes, 13 sujets différents. Donc, les pharisiens venaient, quelqu'un sonnait de la trompette, quelqu'un annonçait ce qu'il mettait, et puis les gens étaient, oh là là, qu'est-ce que c'est un bon croyant. Qu'est-ce que Dieu va vraiment bénir cet homme-là. Ah ben, c'est des faux. C'est pour ça que Jésus dit, ils ont déjà eu leur récompense. C'est-à-dire, les applaudissements de la foule. Discrètement, c'est le mot qui convient. Nous avons connu un homme, autrefois, qui est aujourd'hui au prix du Seigneur, qui est décédé, qui, on a appris des années plus tard, que c'était un homme très, très généreux. Et personne, ou presque personne, ne le savait. Et nous étions en visite dans son église un dimanche. On était là incognito, pour ainsi dire. Et puis, cet homme qui était très vieux, c'était quelques mois avant qu'il décède, il arrive au culte. L'église était, la salle était pleine. Il arrive par l'allée et il cherche une place. Et le président de culte, donc c'était 5 minutes, 10 minutes après le début du culte, le président de culte le voit et prend la parole. Il dit, ah, voilà monsieur X. Il cherche une place. Le président se tourne vers le prédicateur qui était assis là. Vous, dégagez. Faites de la place pour monsieur X, parce que vous savez, il a tellement donné d'argent à notre église. Quelle gaffe. Quelle indiscrétion. Le président de culte était membre du CA, et il savait, mais il n'aurait jamais dû le dire. Et nous étions là, on était en train de dire, oh, ce pauvre monsieur qui certainement a beaucoup donné, mais qui voulait que personne ne le sache. Et le prédicateur s'est dégagé, il est parti, enfin, il a changé de place pour laisser la place. La discrétion. Ne publions pas. Ne demandons pas à un journaliste du Progrès de venir le dimanche matin pour voir le montant de votre chèque. Dieu voit les dessous de la veuve. Dieu voit l'attitude. Et c'est ça qui compte. Jésus dit d'ailleurs un texte qui n'est pas dans les évangiles et qui nous est rapporté par Paul dans Actes 20. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner plus que recevoir. Si vous vous posez des questions par rapport à l'argent, je vous recommande deux livres. Dieu et mes sous, de André Adoul, un sudiste d'ailleurs, il venait de Andouze, je crois bien. Et puis, Le principe du trésor, de Randy Alcorn. Alors, je crois que si vous cherchez Dieu et mes sous, vous ne le trouverez pas, sauf sur nos étagères à la maison. Parce que c'est un livre qui est sorti il y a 40 ans et je crois est épuisé. Mais l'autre est un livre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Et ça peut vous donner des idées. Je termine. Paul termine cette lecture, ce chapitre, avec ce verset-là. 2 Corinthiens 9,15. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Ce don, ce mot, pardon, incomparable, dans une autre version, c'est le mot indescriptible. C'est le mot inexprimable. C'est le mot incroyable. Ou inimaginable. Ou inouï. Ou extraordinaire. Ou un autre mot qu'il faut chercher dans le dictionnaire pour trouver la définition, pour son don ineffable. Tout ça pour dire que Dieu a fait don de son Fils et c'est quelque chose de bouleversant. Ah oui, j'aurais pu mettre ça sur ma liste. Incroyable, bouleversant, que Dieu envoie son Fils. On en a déjà parlé depuis les débuts du culte. Mais si Paul parle de ce que Dieu a donné, c'est pour nous encourager à donner et à nous donner. D'abord à Dieu et ensuite aux autres. Dieu, le Père, a donné. Jésus a donné. Jésus sait donner. Jésus, le bon berger, a donné sa vie pour ses brebis. Puisque Dieu a tellement aimé, puisque Dieu a tant donné, Paul nous encourage à suivre son exemple, à imiter notre Père céleste. Nous donnons parce que Dieu nous a donné. Nous donnons parce que nous avons tant reçu. Soyons les imitateurs de notre bon Père céleste. Prions. Notre Père céleste, merci, car ta parole est une parole vivante. Et merci, car tu nous as tant donné. Aide-nous à nous laisser sonder par ton esprit pour voir notre attitude par rapport à nos biens, par rapport à notre temps. Et aide-nous à être prêts à donner. Aide-nous à être prêts à nous donner, d'abord à toi et ensuite aux autres. Et nous ne voulons pas oublier la famille Griasi dans la peine aujourd'hui. Merci car Antoine t'aimait, il te connaissait. Et nous prions pour la famille, les enfants, petits-enfants, cousins, cousines, et tu connais chacun, pour que tu puisses t'approcher de chacun. Et que plusieurs membres de leur famille puissent aussi s'approcher de toi. Nous te les confions au nom de Jésus. Amen.